Les rencontres du magazine de l'ACFAS. Hongroise de naissance, Liviature est économiste de formation. À partir de 1959, elle enseigne et exerce des fonctions administratives à l'Université de Montréal, puis à la toute nouvelle Université du Québec à Trois-Rivières. En 1974, elle devient la première présidente de l'ACFAS. Sur la question des femmes, elle répondait « Il faut donner la parole à tous, poursuivre l'idée là où elle jaillit. » Entretien réalisé en 1992 par l'historien et sociologue des sciences Yves Gingras en vue de la réalisation de l'ouvrage « Pour l'avancement des sciences, histoire de l'ACFAS, 1923-1993 ».
Madame Liviature, le 15 octobre 1992.
Alors, comme vous le savez peut-être, je suis née en Hongrie. J'ai quitté la Hongrie en 1949 pour aller poursuivre mes études à Louvain, en Belgique. Et c'est là que j'ai fait mes études alors jusqu'en 1955. De 1955 à 1959, pendant 3 années, j'ai été assistante de recherche à l'Université de Louvain, à l'Institut de recherche économique et sociale. Et c'est de là que je suis venue, sur invitation, à l'Université de Montréal, où j'ai eu les fonctions que vous venez d'indiquer. Et essentiellement, j'ai été là de 59 à 70 comme... professeur adjoint et ensuite professeur agrégé.
Donc, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université de Montréal, donc de 60 à 70, et est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous apprenez ou que vous participez ou comment vous apprenez dans les activités de l'ACFAS? Comment vous avez pris connaissance que l'ACFAS existait? Il y a son congrès annuel, j'imagine, mais est-ce que vous avez participé à ça? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené un jour à s'approcher de l'ACFAS?
Étant donné que nous sommes venus, car mon mari également, j'étais mariée lorsque je suis arrivée à Louvain, à Montréal, nous sommes venus tous de la même origine, du même pays, et ensuite des études que nous avons faites à Louvain. Nous étions très attachés à nos collègues à l'Université de Montréal, au département d'économique. D'autant plus que c'est à cause de l'un d'entre eux qui a fait ses études aussi à Louvain que nous avons été invités. C'était le professeur Bouchard, Maurice Bouchard. Et nous étions donc très attachés à eux, qui nous ont invités, ensuite les collègues que nous y avons rencontrés. Et ces personnes participaient toutes aux activités de l'ACFAS. Et par conséquent, dès notre arrivée, ils nous ont fait partie de l'existence de l'ACFAS à peu près au même titre que de l'université, ou parallèlement, n'est-ce pas, réunissant essentiellement les représentants de la même discipline de chacune des universités de langue française. C'est ainsi que nous avons pris connaissance de l'existence de l'ACFAS.
Et là, je constate aussi qu'à partir du milieu des années 60, plus exactement en 65, vous semblez commencer davantage à jouer un rôle administratif, à participer, par exemple, à des fonctions dans le Conseil universitaire de l'Université de Montréal. Je vois aussi en 66 le comité du statut de la femme de la Canadian Association of University Teachers. Donc, est-ce que lorsque vous commencez cette carrière-là, est-ce que vous êtes une des premières femmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans ce... commence à dépasser le niveau du professeur pour aller à des carrières administratives?
Eh bien, je peux répondre à cette question à partir d'une expérience qui s'est déroulée à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, à l'époque où nous arrivions, il y avait une association des professeurs bona fide, ce n'était pas encore le régime des syndicats des professeurs, mais une association qui était très active par des discussions mensuelles une soirée où tous les professeurs qui cultivaient une conscience de la collectivité, qui avaient une conscience de la communauté, participaient. Généralement, l'association présentait un des problèmes, que ce soit lié à l'enseignement, à la recherche ou déjà aux revendications salariales qui venaient à l'horizon. Les professeurs qui étaient là répondaient et ensuite on prenait, je crois, c'était le régime habituel, le fromage et le vin, debout, et tout le monde participait. C'est dans cette association que j'ai vu et que j'ai rencontré d'autres dames ou d'autres femmes de l'Université de Montréal. Il y en avait dans les départements de sciences, dans les départements de psychologie et sciences humaines. J'ai vu là déjà arriver un certain nombre de femmes dans la carrière sans qu'il y ait des discussions au sujet de la pénétration des femmes dans ces milieux. Elles participaient au débat disciplinaire comme tout le monde. De plus, il y avait à Montréal aussi, comme à Québec, une association des femmes diplômées des universités, où on m'a souvent invitée et j'étais très bien accueillie. Et là aussi, il y avait régulièrement des conférences avec une participation. Et c'est ainsi que, d'une façon très naturelle, sans engagement actionnel aucun, j'ai vu marcher à côté de moi d'autres femmes vers leurs objectifs disciplinaires ou autres. Donc je ne peux pas dire que j'étais la première.
Donc, si on s'approche donc, de votre participation plus active à l'ACFAS, vous êtes nommée seconde vice-présidente en 1972. Et on sait dans la mécanique de l'ACFAS qu'au fond, lorsqu'on est nommé second ou seconde vice-présidente, c'est parce qu'on va devenir présidente 2 ans après. Donc, dans quelles circonstances vous êtes approchée, ou je dis approchée, parce qu'il y a dans l'ACFAS un tour, un comité de nomination qui présente une liste. Donc, j'imagine que les gens sont approchés pour dire, bon, est-ce que tu accepterais ou qu'on te propose, et ensuite il y aura évidemment le vote de l'Assemblée. Dans quelles circonstances qu'on vous approche pour participer à un comité, plus exactement pour être seconde vice-présidente en 72?
Eh bien, j'aimerais peut-être attirer votre attention sur le fait que, à l'Université de Montréal, avant de me joindre à l'Université du Québec à Trois-Rivières, j'ai été nommée membre du conseil de l'université et du comité exécutif. Et en même temps et parallèlement, je dirais, j'étais également membre du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Je pense que ces éléments étaient très importants pour ma nomination à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ensuite peut-être aussi pour l'invitation qu'on avait bien voulu m'adresser pour me joindre à l'ACFAS. On a vu que tout en continuant mes activités disciplinaires jusqu'à ce que je devienne vice-recteur, là j'ai dû abandonner l'enseignement, j'ai montré un intérêt pour les problèmes de l'éducation à tous les niveaux, mais évidemment principalement au niveau universitaire, par ces participations et également une certaine expérience administrative. L'approche s'est faite d'une façon très très naturelle et je dois vous dire que je n'ai jamais essayé de savoir qui l'avait m'en fait parce que c'était fait très gentiment et j'ai l'impression qu'il y a eu là une collaboration de plusieurs personnalités, certainement de l'Université du Québec à Trois-Rivières comme de l'Université du Québec at large, n'est-ce pas? Je pense que un des anciens recteurs de l'Université d'Ottawa a dû jouer un rôle là-dedans. Peut-être a-t-on également consulté des personnalités qui jouaient un certain rôle à l'époque au Conseil national de la recherche scientifique, où j'ai connu des personnes. Donc, vous voyez, c'était à l'intérieur des organisations où j'ai travaillé, où quelque part l'initiative est née et probablement qu'ils se sont consultés et qu'ils m'ont demandé de venir. Et j'aimerais simplement, à des fins très personnelles pour vous, souligner le fait que, comme on ne m'a jamais dit, madame, c'était moi qui vous a proposé, je n'ai jamais fait non plus la recherche pour savoir qui exactement. J'ai senti qu'il y a eu une collaboration.
Et lorsque vous acceptez ce poste-là, est-ce que vous êtes un peu consciente que vous devenez, dans la tradition de l'ACFAS, en 1972, c'est la première fois qu'on se prépare à, qu'on nomme une seconde vice-présidente, et donc on se prépare à nommer une première vice-présidente, une première présidente dans deux ans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un contexte où l'ACFAS, et peut-être la société en général, et l'ACFAS fait partie de cette société-là, et ça, moi, je le vois très bien dans les minutes de l'ACFAS elle-même. Okay? Dès la fin, dès 70,
oui.
Parce qu'on voit très bien dans les... J'ai des belles découpures de journaux qui montrent très bien que dans les années 60, là, on prend conscience qu'il y a de plus en plus de femmes à l'ACFAS comme telle. Et dans 70, le conseil de l'ACFAS prend conscience qu'il n'y a pas de femmes sur le conseil. Aucune. Donc, la première étape, on dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins un membre du conseil et ou des étudiants gradués, il faudrait qu'il y ait un membre du conseil qui soit une femme. Donc, est-ce que vous sentez cette prise de conscience de la part de l'ACFAS, de, comme disaient les gens à l'époque, de se démocratiser, c'est un drôle de terme qu'ils emploient, mais c'est le terme qu'ils emploient, de se démocratiser, voulant dire au fond,
d'ouvrir
les portes à tous ceux qui sont maintenant à l'ACFAS, alors qu'effectivement, les années 50, il y avait à peu près très très peu de femmes dans l'ACFAS, donc le conseil n'avait pas à se poser de questions sur sa représentativité. Là, au début des années 70, c'est très clair. On le dit expressément, il faut ouvrir les choses. Et 72, donc est-ce que, donc je reviens à ma question de base, après cette mise en contexte-là, est-ce que, pour vous, ça va de soi, parce que vous disiez un peu plus tôt que, bon, dans les années 60, lorsque vous discutez avec vos collègues, ils participent au débat disciplinaire, et il n'y a pas de discours, on pourrait appeler un discours au second degré, de leur place dans ça, ça va de soi, ils font partie de l'équipe. Mais est-ce qu'en 72, là, vous voyez cette conscience-là que c'est un geste cohérent de l'ACFAS de s'ouvrir? C'est pas rien que ils en sont conscients que c'est important, ce geste-là.
Oui. Je dois vous dire que j'ai l'impression, je n'ai jamais pensé à cette question avant qu'on me la pose maintenant, que il a dû y avoir cela aussi dans le débat qui a précédé peut-être l'invitation qui m'a été adressée. Mais comme toujours dans ma vie, j'ai dû faire preuve de mes capacités disciplinaires ou administratives ou tout simplement humaines ou diplomatiques ou autres pour être nommée quelque part. Cela ne m'a pas préoccupée en tant que personne. D'autant plus que j'aimerais vous signaler qu'entre-temps, il y a eu d'autres engagements de ma part. Par exemple, ayant terminé un premier mandat au Conseil supérieur de l'éducation, je n'ai pas accepté un second. J'ai accepté, par contre, d'être nommée au Conseil des sciences du Canada. J'ai, pendant que j'étais vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à Trois-Rivières, donc dans une fonction vraiment administrative, aussi accepté les conseils d'administration d'affaires, c'est-à-dire de Bell Canada, de la Corporation de développement du Canada et de Sidbeck d'Oslo. C'était évidemment une charge considérable. Comme vous pouvez vous imaginer, je n'ai pas accepté d'autres. C'était le maximum que je pouvais porter, mais je pouvais le porter utilement. Dans chaque cas, évidemment, j'ai demandé et j'ai discuté longuement ces engagements avec mon recteur. Mais cela vous montre encore une fois que, étant aussi engagé dans toutes ces activités, j'ai pensé que c'est aussi grâce à ceux-là qu'on m'a demandé de venir. Et je n'ai pas tellement pensé au fait que peut-être on a également pensé à ce moment-là d'inviter une femme.
Okay. C'est...
Mais vous sentez certainement la différence, n'est-ce pas? C'est que maintenant que vous me posez la question de savoir si je crois que il y avait là une prise de conscience du côté de l'ACFAS, je pense.
Aujourd'hui, mais à l'époque, pour vous, ça vous traversait l'esprit.
Non.
C'était
non.
Que vous trouviez ça cohérent avec votre position dans l'espace
mes constitutionnel. Mes contributions, exactement.
Lorsque vous êtes nommée vice-rectrice en 70, est-ce qu'il y a, à ce niveau-là, de l'administration, d'autres femmes dans les universités du Québec?
Non. En tout cas, pas dans les universités de langue française.
Non, c'est ça.
Non.
Puis il n'y en avait pas eu avant non plus.
Je ne crois pas.
Je ne comprends pas.
Non.
C'est ce que je pense.
Non. Et j'aimerais vous dire que c'était une grande joie pour moi. Parce que, ayant regardé à l'Université de Montréal, notamment au conseil et au comité exécutif, le fonctionnement de l'université, ayant toujours maintenu, même lorsque j'étais là, évidemment, mes fonctions d'enseignement. J'ai rêvé, dans le sens où on peut rêver parfois lorsqu'on quitte un conseil, non pas pour prendre là des actions ou une responsabilité, mais je me suis demandé, mon Dieu, si moi je pouvais une fois être vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, ce que j'aimerais faire, n'est-ce pas, pour résoudre un tel problème, ou ce que j'aimerais suggérer pour éviter un tel autre, pour favoriser le développement professoral. Eh bien, c'est dans ce contexte que le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières m'a téléphoné. Je l'ai rencontré au Conseil supérieur de l'éducation et m'a demandé si je voulais collaborer avec lui à l'établissement de l'université, car il s'agissait, n'est-ce pas, de mettre en place et de créer les traditions universitaires. Alors je lui ai demandé...
C'était qui le recteur?
C'était Boulet, M. Boulet, Lionel qui est devenu plus tard président de l'Université du Québec. Un homme très dynamique et d'une ouverture d'esprit remarquable. Alors, évidemment, c'était une grande surprise pour moi et je lui ai dit que je devais lui dire immédiatement et d'une façon très naturelle que j'aurais rêvé de cela, mais que tout de même, je dois penser qu'il me donne quelques semaines, n'est-ce pas, de réflexion avant de l'accepter. Alors, c'est pour vous dire que j'y suis allée avec énormément de plaisir et de conviction que je pourrais peut-être contribuer à bâtir cette université avec le monde qui était là à l'époque.
Au début, à compter du début des années 70, il y a de plus en plus de femmes qui vont au deuxième et troisième cycle. Comparé aux années 50, on peut dire que c'est près de zéro. La croissance est au début des années 60, ce qui veut dire que les postes, pour eux, apparaissent dans les années 70 parce qu'il y a une démographie. De l'accession des femmes au milieu universitaire. Et les années 70 sont importantes, cette période-là.
Oui. Eh bien, évidemment, là, nous sommes dans l'époque où ces femmes se formaient. N'est-ce pas? Elles n'étaient pas encore nécessairement sur le marché du travail, mais elles se formaient. Disons que mon attitude a toujours consisté à montrer ce qu'on m'a montré à moi très favorablement dans ma vie, c'est que l'argument vaut l'argument dans un débat, lorsqu'il y a rencontre, que ce soit scientifique ou un débat d'ordre organisationnel ou administratif ou autre, à savoir de donner la parole, de poursuivre l'idée là où elle jaillit et là où elle est ou celle qui est la meilleure. Que ce soit venu d'un homme ou d'une femme. Nous avons eu au conseil de l'université à Trois-Rivières particulièrement une participation très active des étudiants et des étudiantes. Encore une fois, beaucoup plus de garçons que de jeunes filles à cause du fait qu'elles allaient monter dans les études à ce moment-là. Mais tout de même, nous avons eu cela. Nous avons également eu, par voie d'élection, l'apparition de femmes directeurs de modules ou bien de départements ou vice-doyennes, n'est-ce pas? Bon. Et encore une fois, sans qu'il y ait aucune fermeture, sans qu'il y ait aucune différenciation. Parce qu'en même temps, il faut vous dire que j'ai remarqué, par l'Université du Québec, à Trois-Rivières parce que d'abord il y en avait encore trop peu, mais ailleurs un peu dans les organismes supérieurs, que on pouvait autant nuire aux femmes en les poussant, n'est-ce pas, qu'en les écartant lorsqu'elles avaient de bonnes idées. Parce que le fait de pousser, n'est-ce pas, attire l'attention et crée très souvent dans ces organismes où on siège longtemps. N'oubliez pas, c'était le début de l'Université du Québec et à Trois-Rivières aussi, on avait entre nous soit des réunions de la commission des études de 7-8 heures. Il fallait lever les séances pour permettre aux gens de se dégourdir un peu les jambes puis revenir. J'aimais bien parce que tout de même ça permettait à tous les participants d'épuiser tous les problèmes et de voir ce qu'est une université, n'est-ce pas vraiment? Ailleurs, j'ai vu que dans ces longues réunions, il y a un microclimat, n'est-ce pas, qui se fait. Et il ne faut pas perdre de la participation l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre composante, surtout à cause du fait que si une des composantes voit que quelqu'un systématiquement favorise les hommes ou systématiquement favorise les femmes, ou bien les défavorise parce que l'argument vient d'un homme ou d'une femme, il perd son auditoire. Et c'est contre-productif, au moins à l'époque c'était comme ça. Et donc, ce que j'ai pu faire, c'était d'assurer que pas seulement moi, mais tout le monde à l'université regarde la participation féminine au même titre que la participation masculine. Ni pour plus, ni pour moins. Et que la valeur des arguments, la valeur de la participation soit jugée, et non pas la question de savoir si ça vient d'un homme ou si ça vient d'une femme.
Lorsque vous accédez à la présidence de l'ACFAS, c'est quand même, normalement, okay, oui, un lieu exceptionnel qui peut nous permettre de jouer un rôle de porte-parole pendant une période quand même limitée, c'est une année, mais qui, pour certains ou pour certaines, j'imagine, se disent, bon, quel discours que je peux tenir, quelle pourrait être ma contribution particulière lorsque, oui, je passe après d'autres, oui, et le fait que, lorsque je suis présidente, je suis quand même le premier à être président. Il n'y a pas eu... Le poste de président n'est pas encore banalisé. Ce qui va le devenir, parce qu'encore une fois, on est quand même uniquement là... Même si vous avez été nommé président en 1974, il ne faut pas oublier qu'on en est uniquement aujourd'hui à la 4e présidente.
Ah oui.
Donc, c'est quand même assez peu fréquent, mais ça devient quand même plus banalisé, oui, d'avoir, oui, été 5e. Donc, est-ce que vous êtes conscient de cette époque-là de la conjoncture particulière? Et est-ce que vous vous êtes donné un mandat particulier comme lorsque vous étiez président?
Sans vouloir vous décevoir, je dois vous dire que lorsqu'on arrive après avoir fait ces échelons, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'ACFAS, et on participe activement, et j'ai participé activement à toutes les réunions, on se rend compte que... pour le moment de la, lorsqu'arrive la présidence, en fait, l'initiative personnelle pour un discours très personnel, en tout cas à l'époque, allait être très très limitée. Parce que les problèmes que l'ACFAS portait à l'époque prédominaient et laissaient peu de place à des initiatives nouvelles. On était déjà heureux et très heureux si on allait bien accomplir les tâches, n'est-ce pas, qui sont là chaque année, à savoir l'organisation du congrès qui est l'activité principale, avec le lieu qui est aussi parfois un problème. C'est à Moncton que ma présidence a été acheminée, elle a commencé à Laval, à Québec. Donc, vous voyez, lorsqu'on veut là faire un pas, bien, ce pas aussi, déjà dans l'accomplissement de la fonction principale de l'ACFAS, c'est parfois difficile. Ensuite, les prix. J'ai également fondé un prix, donc l'introduction du prix, le fait de le bien asseoir, de le faire accepter, c'était le prix Vincent.
Pour les sciences humaines.
C'est ça. C'est dans ce contexte qu'il fallait aussi faire attention que... encore une fois, assurer l'ouverture à tout le monde, s'assurer que assez de publicité se fasse pour la participation au congrès. c'est-à-dire la présentation de projets de recherche, de résultats de recherche suivant les cas, et que dans chaque université, et notamment dans chaque constituant de l'Université du Québec, ça se fasse pour peut-être, avec l'espoir toujours d'aboutir, n'est-ce pas, je dis peut-être, on ne sait jamais, mais d'aboutir à cette même conscience d'appartenance qu'on avait dans les anciennes universités, et j'ai connu, comme je vous ai dit au début de notre entretien, à l'Université de Montréal. Alors, ça, c'était une préoccupation de ma part, de m'assurer, sans en faire un grand cas, n'est-ce pas, toujours, mais assurer cette ouverture-là. Il y avait un autre problème de l'époque, et qui m'a touché très particulièrement. On venait de m'apprendre discrètement qu'il y a un projet de sécession à l'intérieur de l'ACFAS, de sécession des sciences sociales de l'ensemble. Alors, je dois vous dire que j'ai été tout de même très heureuse d'avoir été à ce moment en congé sabbatique. Entre vous et moi, simplement pour compléter le congé sabbatique, ça faisait partie de mon engagement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où j'ai pris 4 années, c'est-à-dire un terme, et si on ne se représentait pas, on pouvait jouir, n'est-ce pas, d'une année de congé sabbatique. C'était à l'époque la règle du jeu, je ne sais pas ce qu'elle est maintenant. J'ai été très très heureuse parce que ça m'a permis de prendre ça très au sérieux, sans en faire un cas. C'est pas, que voulez-vous d'ailleurs que le conseil puisse dire à ce sujet, peu. Alors là, j'ai pris la décision de revenir souvent à Montréal et de rencontrer individuellement un certain nombre de personnes et qui jouaient tout de même à l'époque un rôle pas nécessairement toujours très visible, mais clé dans les sciences sociales, à l'Université de Montréal en particulier, pas dans ma discipline, dans les autres disciplines. Et plusieurs fois, j'ai téléphoné, j'ai dit aux gens que j'aimerais, à titre de président de l'ACFAS, m'entretenir avec eux. Et aussi parce que, et à ce moment-là, évidemment, mes anciennes relations m'aidaient beaucoup, beaucoup, de m'entretenir un peu de quelques problèmes de couloir dont j'entends parler, mais que je n'ai même pas porté tellement officiellement à l'attention du conseil. Et alors, nous avons pris un repas ensemble, je les ai invités, ou bien on a eu d'autres entretiens et de discussions, et effectivement, j'ai découvert, cher monsieur Gingras, que le projet de sécession était sur la table, et que c'était plus sérieux qu'un simple bruit. Et alors là, j'ai pu aller au fond de au moins 2 ou 3 discussions où j'ai senti que, comment, on pratique la transparence de part et d'autre et qu'ils me disent la vérité entière, que l'ACFAS, à leurs yeux, était trop associé aux sciences exactes. Alors, ils ont fait même un petit inventaire d'un certain nombre de choses que, bon, pas seulement les présidents, n'est-ce pas, mais que, on m'a énuméré d'autres critères, revenant cependant le plus souvent à des personnes, n'est-ce pas, qui représentaient l'ACFAS ou qui étaient présidents ou qui jouaient d'autres rôles ou, et que c'était tellement axé sur les sciences que on ne pouvait vraiment rien et que au lieu là de vouloir convaincre les dinosaures, n'est-ce pas, comme ils disaient parfois, il valait mieux de simplement dire, mais écoutez, faites votre chemin, on ne vous dérange pas, nous faisons notre chemin et puis c'est tout. Alors, là, je suis retournée avec certaines personnes dans 2 ou 3 occasions et j'essayais de les convaincre qu'il faut tout de même faire un honnête effort vers l'ouverture, de porter ces problèmes devant le conseil, de les faire discuter en comité si c'est nécessaire, devant des comités ad hoc, par exemple, au moment du congrès ou à l'occasion d'autres réunions, et de leur demander de se préoccuper davantage des sciences sociales. Et si de tels efforts allaient échouer, ils allaient encore toujours avoir le temps et l'occasion de se séparer. Je dois vous dire que, sans que ça paraisse, évidemment, ça n'a pas laissé de traces et je suis contente, sauf peut-être dans quelques procès-verbaux et encore, j'ai pu arrêter le mouvement à l'époque. Ensuite, il y avait à l'époque une ambiance très particulière. C'était les effets de la création de l'Université du Québec. Vous savez que ça a un peu secoué le monde universitaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être que ça revient à l'occasion des discussions budgétaires, n'est-ce pas? Ou de la recherche, n'est-ce pas? Et je ne sais pas où vous avez été. Vous étiez très très jeune à l'époque, je l'imagine, n'est-ce pas? Vous n'avez pas...
74, j'entrais au baccalauréat en physique à l'Université Laval.
C'est ça. Je dois aussi ajouter disons, c'était évidemment déjà là depuis 70, mais je dirais que entre 70 et 72, on avait parfois l'impression, en tout cas à Montréal, dans la ville de Montréal, que l'existence de l'Université du Québec n'est pas fine. Vous voyez? Bon. Alors, bon, évidemment, ces questions étaient surtout débattues de façon institutionnelle, une université contre une autre ou en face d'une autre, n'est-ce pas, des disciplines les unes en face des autres à l'intérieur d'autres
institutions. Comment ça se traduisait dans l'ACFAS?
Et puis, évidemment, on le sentait à l'ACFAS à la porte d'entrée. Par là, je veux dire ceci, au début des réunions, ou avant les réunions, ou après, parfois on prenait le repas ensemble, on prenait ensemble, des chants ensemble, etc. Les gens apportaient évidemment le reflet de ces débats, n'est-ce pas, posaient des questions. Et, bon. Et surtout qu'à l'intérieur de l'ACFAS, il y avait tout de même encore beaucoup plus de représentants des anciennes universités que de l'Université du Québec. Et comme j'avais d'excellentes relations avec ces gens-là, qui étaient très gentils avec moi, beaucoup de questions très personnelles aussi m'ont été posées. Comment se fait-il que vous ayez accepté de partir de l'Université de Montréal à l'Université du Québec à Trois-Rivières? Et puis, je dois vous dire que j'aimais autant ces questions que d'autres. Moi, j'aime la franchise, le débat, la clarté, la transparence, ça. Et je leur ai dit, comme je vous ai dit au début, que j'aurais rêvé d'un poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, pas des autres vice-recteurs, hein, mais que c'était encore plus passionnant ici parce qu'il s'agissait d'aider à mettre sur place. On se sentait vraiment, vraiment appelé, n'est-ce pas, à collaborer à quelque chose d'unique et que l'esprit qui a régné, M. Boulay m'a assuré toute liberté, pleine collaboration, aussi une franchise, n'est-ce pas, de comportement extraordinaire, et que c'est pour cela. Si je mentionne ça, c'est pas du tout que c'était désagréable, au contraire, mais pour vous montrer, n'est-ce pas, que ça se campait dans l'ambiance, n'est-ce pas?
À ce moment-là, au niveau justement de la participation au conseil, comme c'était toujours traditionnellement des gens de Laval, de Montréal et d'Ottawa,
oui.
Est-ce qu'il y a eu des discussions un coup de se dire, ben finalement, il faudrait aussi nommer des membres du conseil qui viennent de nos nouvelles universités, c'est-à-dire, comme vous dites, UQTR, UQAM?
Ah oui, j'ai l'impression que ça allait venir, mais parce que je voudrais vous dire que si, je crois que j'ai utilisé l'expression, n'est-ce pas, c'est que c'est à l'entrée des réunions ou à la sortie, lorsqu'on parlait aussi d'autres choses. Parce que, il faut tout de même dire que, encore une fois, à l'intérieur des réunions, hein, lorsqu'on débattait les sujets, ce n'était pas à l'ordre du jour. Jamais, par exemple, ces gens de Laval ou de Montréal n'auraient voulu amener l'ACFAS. C'est très important, je pense, à l'époque, d'entrer dans cette lutte en tant qu'organisme. Jamais, 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 jamais. Alors, la préoccupation quotidienne a été véhiculée à l'entrée, mais ensuite c'était fini et il n'y a eu absolument aucune pression de leur part de que l'ACFAS participe à quoi que ce soit, ou au contraire. Et lorsqu'on était en plein débat ou dans un comité ad hoc, par exemple pour les prix, n'est-ce pas, il y a beaucoup de débats là, là ont déjà participé pas mal de gens aussi des nouvelles universités, on sentait que les professeurs avaient même un certain plaisir de se débarrasser de ces questions institutionnelles. personnel et de revenir dans un grand ensemble aux questions fondamentales qui sont leur discipline, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que dans ce petit numéro noir, c'est ça que j'ai dit, parce qu'on m'a téléphoné à Ottawa et on m'a dit au téléphone, est-ce que vous pourriez nous donner une impression des professeurs de l'époque? Je dis, j'avais l'impression qu'ils étaient heureux, soulagés de venir là et de se débarrasser des questions institutionnelles. Thank you.